Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, la surenchère continue entre Israël et l'Iran. L'État hébreu a promis de frapper tous les sites iraniens. Des frappes qui ont déjà fait 80 morts en deux jours en Iran. Tandis que l'Iran menace d'accentuer sa riposte qui a fait 3 morts en Israël jusqu'ici. Nous ferons un point complet dans ce journal. Dans le même temps à Paris, manifestation de soutien à la reconnaissance d'un État palestinien. Un rassemblement pour que ne soit pas oublié le drame de Gaza et le sort de millions de Palestiniens. Et puis le géant japonais de la sidérurgie exulte. Nippon Steel va pouvoir racheter son rival américain US Steel après le feu vert donné par Donald Trump. Un partenariat historique est annoncé. Bonsoir à tous. L'escalade continue entre l'Iran et Israël. Un responsable israélien a déclaré que l'Iran avait tiré environ 200 missiles balistiques en 4 vagues. Israël dit de son côté avoir visé plus de 150 cibles en Iran. 78 personnes ont été tuées en Iran et 3 en Israël. Les attaques semblent loin d'être terminées avec de chaque côté une surenchère verbale. Sébastien Farcy.
Téhéran brûlera si le régime iranien continue à tirer des missiles contre nous, assure Israël. L'Iran, de son côté, promet une riposte encore plus forte. Aucun des belligérants n'est donc prêt à suivre la désescalade recommandée par une grande partie des pays étrangers, des nations qui choisissent d'ailleurs leur camp maintenant. La France s'est dite prête à défendre Israël, alors que la Turquie et la Chine ont condamné l'attaque de l'État hébreu. Benjamin Netanyahou, lui, semble déterminé. Son armée dit que la voie est ouverte vers Téhéran, ce qui veut dire qu'elle aurait abattu l'essentiel des défenses antiaériennes qui menacent ses chasseurs. La capitale iranienne est donc plus que jamais ciblée. Le Premier ministre affirme que son armée visera ainsi tous les sites du régime iranien dans le but de détruire son programme nucléaire. Un programme déjà affaibli ces dernières heures. La partie émergée de l'important site d'enrichissement de Natanz a été endommagée par exemple, mais il est difficile pour Israël de toucher les parties enfouies. Or, c'est là que pourrait se trouver l'uranium, qui est l'une des pièces cruciales de ce programme nucléaire.
Israël, qui dit avoir le plein soutien des États-Unis, affirme avoir frappé ce samedi une installation souterraine de lancement de missiles à Horamabad, dans l'ouest de l'Iran, alors que l'armée israélienne affirme avoir la maîtrise du ciel autour de la capitale iranienne et sur l'ouest du pays. Les frappes continuent donc. De son côté, l'Iran a activé sa défense antiaérienne à Téhéran et dans 6 autres provinces, selon un média local. Et alors que le président iranien, Massoud Pezeshkian, a de son côté mis en garde contre une riposte militaire plus forte de l'Iran, si Israël poursuit ses attaques en territoire iranien, les pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire iranien sont suspendus sine die. L'Iran accuse Israël de les avoir sapés en bombardant le pays. Elles n'ont plus de sens, selon Téhéran. Le sultanat d'Oman, qui devait les accueillir ce dimanche, a confirmé leur annulation. Et puis le face-à-face entre Israël et l'Iran, également au centre d'un entretien téléphonique des présidents américains et russes. Donald Trump parle d'une convergence de vues entre les deux hommes. Le président russe Vladimir Poutine pense lui aussi que cette guerre Israël-Iran doit s'arrêter. C'est ce que Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social. L'affrontement ouvert entre Israël et l'Iran, qui a de fait relégué de l'avis même de l'État hébreu le conflit à Gaza au rang, je cite, de priorité secondaire. De fait, la conférence sur la reconnaissance d'un État palestinien prévue dans une semaine à New York a dû être reportée, avec le risque d'un oubli momentané de la situation à Gaza. En France, 5 syndicats, les partis de gauche et des collectifs en faveur des droits des Palestiniens manifestaient ainsi ce samedi à Paris, un défilé entre la place de la République et celle de la Nation. Il s'agissait de réclamer la paix à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. La manifestation a été très suivie. Les manifestants expliquent que si le face-à-face entre l'Iran et Israël monopolise l'attention, les massacres à Gaza se poursuivent. Sonia est venue manifester pour le rappeler.
Je pense qu'aujourd'hui, la cause palestinienne, elle dépasse même la simple cause de cette population. C'est nos valeurs, en fait, qui sont en jeu aujourd'hui. La France ne peut pas continuer à livrer des armes sur un pays où on a défini, prouvé, argumenté par une dizaine d'ONG hyper reconnues et notamment par l'ONU et la Cour internationale, comme quoi il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Comment ça se fait? Il ne faut pas oublier que le colloque de la semaine prochaine, qui était normalement ce soir tenu par l'ONU, où c'était la question, le principe de cette colloque, c'était la résolution à 2 États. La France était coprésidente. C'est-à-dire que c'était nous qui organisions ce colloque. Aujourd'hui, il est annulé parce qu'il y a l'Iran, parce qu'on a tapé l'Iran. Donc en fait, on n'avancera jamais. Même quand il y avait un peu une lueur d'espoir, semaine avant, c'est annulé.
Des propos recueillis par Laurence Théo. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce samedi la mort de 41 personnes dans des opérations israéliennes, dont 23 tuées selon elle, alors qu'elles attendaient des distributions d'aide alimentaire. Un responsable du ministère palestinien des télécommunications a par ailleurs annoncé que le réseau de téléphonie et d'internet a été rétabli ce samedi soir dans la bande de Gaza après 3 jours d'interruption. Ils avaient été coupés après une attaque de l'armée israélienne sur un câble de fibre optique.
RFI, la radio du monde.
Une page économique à présent dans ce journal. Le géant japonais de la sidérurgie Nippon Steel salue un partenariat historique avec son rival US Steel. Déclaration après l'annonce du feu vert de Donald Trump pour le rachat de la multinationale américaine après 18 mois de négociations. Nippon Steel va débourser 14,1 milliards de dollars pour racheter son principal concurrent. 14 milliards auxquels s'ajoutent 11 milliards de dollars d'investissement supplémentaires à réaliser d'ici 2028. Tout cela dans un contexte mondial très tendu pour l'acier. Anne Verdaguer.
Pour Nippon Steel, qui devient avec ce rachat le numéro 3 mondial de l'acier, le pari est risqué avec possiblement un très lourd endettement dans un marché où domine la surproduction chinoise, où la demande d'acier est en berne et où les surtaxes américaines de 50% sur l'acier rendent l'horizon très incertain. Les négociations, elles, ont été très longues, interrompues lors du mandat de Joe Biden. Elles ont repris avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le rachat a été l'objet d'une forte opposition aux États-Unis et a été un sujet majeur de la dernière campagne présidentielle. Parmi les points de crispation, des questions relatives à la sécurité nationale. Un accord semble avoir été trouvé dans ce sens. US Steel conservera son siège à Pittsburgh et restera américain, selon Donald Trump, qui a sans doute obtenu d'autres concessions, lui conférant notamment un droit de regard sur certaines décisions stratégiques de l'entreprise. Reste que les États-Unis devraient largement bénéficier de ce rachat grâce à une stratégie de croissance, avec à la clé la construction d'une nouvelle aciérie pour 4 milliards de dollars et la création de 70 000 emplois supplémentaires, si l'on en croit Donald Trump.
RFI, il est 23h07 à Mayotte. Il y a 6 mois, jour pour jour, le 14 décembre, le cyclone Chido frappait Mayotte, cette île française de l'océan Indien dans l'archipel des Comores. Chido a laissé le territoire dévasté. Le bilan humain fourni par les autorités s'élève à 40 morts et 40 disparus. Déjà confronté à de multiples problématiques liées à l'insécurité, à la pression migratoire et au sous-développement du territoire, le cyclone l'a encore fragilisé davantage. Le 24 février, une loi a été votée au Parlement français pour reconstruire rapidement Mayotte. Mais sur place, la reconstruction n'a pas vraiment commencé. À Mamoudzou, les toits éventrés s'étendent toujours à perte de vue, 6 mois après le cyclone. Lisa Morisseau s'est rendue dans l'agence de communication Inatcom, dont les bâtiments et le matériel ont été dévastés par Chido. Reportage.
Ici, c'était le studio.
L'agence de communication est méconnaissable. L'entreprise de 17 salariés possédait des équipements audiovisuels dernier cri. L'intégralité a été ravagée par le cyclone, ce qui représente 250 000 euros de pertes selon Zamir Saïd Ali, le directeur de production. Pour envisager une réelle reprise de l'activité, l'agence a besoin des aides.
Pour acheter du matériel, etc., bien entendu, on est obligé d'attendre de recevoir les sous de l'assurance. En même temps, on attend aussi des créances clients pour pouvoir aller racheter du matériel. Et on a déposé des dossiers de subvention.
La situation d'Inatcom n'est pas un cas isolé. Des professionnels et des particuliers se retrouvent bloqués dans l'attente des aides financières. De l'autre côté, de nombreux artisans ne peuvent pas non plus entamer des travaux de réparation. Bouraïma Ali Ousseni est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte.
Aujourd'hui, les marchés, il y en a très peu. Il y a eu beaucoup de commandes qui ont été faites en urgence par rapport au passage du cyclone. Beaucoup d'artisans ont été mobilisés. Aujourd'hui, 6 mois après, ils ne sont pas payés par les collectivités.
De fait, il est impossible pour eux de démarrer un chantier sans avoir les moyens d'acheter du matériel ou de payer leurs salariés. Lisa Morisseau, Mayotte. RFI.
En bref, encore aux États-Unis, un défilé militaire pour célébrer les 250 ans de l'armée de terre et le 79e anniversaire de Donald Trump. Un défilé à Washington qui se déroule sur fond de manifestations contre la politique menée par Donald Trump dans tout le pays. Et puis un mot de football avec le début de la Coupe du Monde des clubs ce soir. Un nouveau format de cette compétition voulu par Gianni Infantino. 32 clubs s'affrontent aux États-Unis avec des affiches jamais vues à l'image du match d'ouverture qui opposera tout à l'heure l'Inter Miami de Lyon Lionel Messi au club égyptien d'Al Ahly. 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. Merci d'avoir écouté ce journal. Excellente soirée sur